Les enjeux du synode et les espoirs qu'il soulève, voici une conférence de Monique Beaujard, théologienne présidente des Amis de l'hebdomadaire La Vie. Conférence enregistrée le 8 mars 2024 en l'église Saint-Paul à Pau, dans le cadre de Foi et Culture. Les enjeux du synode et les espoirs qu'il soulève, Monique Beaujard.
Donc ce synode sur la synodalité qui traîne en longueur et que dont on voit très peu de résultats concrets dans les médias, au point que beaucoup de catholiques se décourage et se demande s'il peut vraiment sortir quelque chose de neuf de ce processus. Nombreux sont ceux qui aspirent à une transformation profonde de l'Église, mais il y en a d'autres qui font obstruction à tout changement et qui rêvent d'un retour en arrière vers un hypothétique âge d'or de la chrétienté. Pourtant, ce changement est en cours. Il est indéniable, mais il s'est fait à petits pas. Et cela demande une observation fine pour le percevoir. Et il faut accepter que la transformation d'une vieille dame de 2000 ans, ça s'inscrit dans le temps long. Ce que je voudrais essayer de vous partager avec vous ce soir, c'est quelques exemples de ce qui change, comment les choses changent, donc le but aussi, et donc qu'est-ce qu'on peut en attendre et pourquoi le pape, en fait, a besoin de nous tous pour, je dirais, transformer l'essai, puisqu'on est en ovalie, ou quelque part aussi, non, c'est régional. J'ai choisi de parler du synode à partir de mon expérience à la conférence des évêques. Je vais faire une petite relecture, je vais sortir quatre points qui m'ont frappé. Alors, dysfonctionnement, c'est peut-être trop, mais enfin oui, peut-être. Et je vous montrerai après comment ces mêmes points aujourd'hui sont discutés dans le synode. Il y a bien d'autres points qui sont discutés dans le synode, mais s'il faut reprendre la quarantaine de pages du rapport de synthèse du mois d'octobre, je crains que vous vous endormiez très vite à la lecture de cela. Mais avant de vous parler de mon expérience, je veux vous signaler deux textes très importants qui sont courts et vraiment, si vous ne les avez pas lus, je peux que vous encouragez à les lire. Le premier texte, c'est « Marcher ensemble », un discours du 17 octobre 2015 pour le 50e anniversaire de l'institution du Synode des évêques, donc le discours du pape François. Et déjà en 2015, il donnait les grandes lignes de cette Église synodale, dont il dit que c'est ce que Dieu attend pour le troisième millénaire. Il ne parle pas du 21e siècle, il parle bien du troisième millénaire. Il faut espérer que ça se mette en place quand même au cours du 21e siècle, mais voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Il donne deux grandes caractéristiques de cette Église synodale. C'est une Église de l'écoute, où chacun a à apprendre de l'autre, et où tous ensemble, on se met à l'écoute de l'Esprit-Saint. Première caractéristique, écouter et apprendre des autres. Deuxième caractéristique, c'est une Église du service, où personne n'est au-dessus de l'autre, et où chacun se met au service de ses frères et sœurs. Et il cite à un moment donné l'Évangile selon saint Matthieu, un passage que vous connaissez, c'est au moment du lavement des pieds, où le Christ dit, vous le savez, les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir et les grands sous leur domination. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Si quelqu'un parmi vous veut être grand, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Et le pape, ayant cité saint Matthieu, insiste pour les disciples de Jésus, hier, aujourd'hui et toujours, l'unique autorité est autorité de service, l'unique pouvoir est le pouvoir de la croix. Je vais revenir sur ces choses-là par la suite. Et le deuxième texte tout aussi important, c'est la lettre au peuple de Dieu du 20 août 2018, toujours du pape François. C'est dans ce texte marque vraiment un changement sur deux points. C'est dans ce texte où le pape fait pour la première fois le lien entre abus sexuel, abus de pouvoir et abus de conscience. Avant, on pouvait croire que les abus sexuels, que c'était des défaillances personnelles. Non. Il montre bien qu'il y a toujours d'abord un abus de pouvoir et de conscience avant qu'il y ait un abus sexuel. Il n'y a pas toujours un abus sexuel après un abus de pouvoir, mais que c'est lié. Donc, ce n'est pas juste une défaillance, c'est vraiment toute la question de l'exercice du pouvoir qui est en cause. Et il dit que le cléricalisme forme le terreau de ces abus, et il définit le cléricalisme comme une manière déviante de concevoir l'autorité dans l'Église, qui peut être le fait des laïcs autant que des clercs. Et c'est là où il fait cet appel vibrant que Christine vient de citer. Il est nécessaire que chaque baptisé se sente engagé dans la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant besoin. Il dit clairement, et c'est nouveau, que les laïcs doivent s'occuper de l'Église. Et jusqu'ici, l'Église était chasse-gardée des évêques et des prêtres. Mais vous comprenez bien que si la relation entre laïcs et prêtres et évêques doit changer, quand on veut changer une relation, il faut bien que les deux parties y mettent du sien. Donc la transformation à laquelle le pape appelle ne peut pas se faire sans l'implication de chaque baptisé. C'est dans la suite de cette lettre au peuple de Dieu que s'est constitué ce collectif qui s'appelle aujourd'hui Promesse d'Église. C'est aujourd'hui 45 organisations très diverses. Ça va de l'Emmanuel au CCFD Terre Solidaire, en passant par des organisations, les mouvements de l'Action catholique, les apprentis d'Auteuil, le Secours catholique, etc., des grandes et des petites associations. Je peux en reparler après si vous voulez. Plusieurs de ces organisations auraient pensé que cette lettre du pape qui interpelle chaque baptisé ne pouvait pas rester sans réponse, et on essaye, tant bien que mal et très modestement, de voir comment on peut répondre à cette interpellation du pape François. Mais si je signale ces deux textes au départ, c'est garder en tête que dans l'Église, donc, l'autorité doit s'exercer au service des frères et sœurs, et que collectivement, nous avons peut-être développé une manière déviante de concevoir l'autorité dans l'Église, et que c'est ça qui forme le terreau des abus. Et garder aussi en tête que cette crise des abus sexuels n'est finalement que la partie émergée de l'iceberg. C'est donc toute la question de l'exercice du pouvoir qui est aujourd'hui remise en cause. Il y a un autre problème avec l'autorité dans l'Église, qui n'est pas juste cette question de l'autorité. Quand il y a des abus sexuels, l'autorité a été exercée, bien sûr, a été détournée. Elle n'a pas été exercée au service des personnes. Elle a été détournée pour l'ego, au profit des pulsions des agresseurs. Mais il y a un autre problème avec l'autorité dans l'Église. Avant, l'Église avait une autorité morale quand elle se prononçait. Une autorité morale qui allait bien au-delà du cercle catholique. Et aujourd'hui, elle peine à se faire entendre dans les débats de société, et même chez les catholiques. Il y a une désaffection grandissante devant la foi chrétienne, et le nombre de chrétiens diminue au point de devenir minoritaire en France. Ce sont bien sûr des phénomènes complexes qui ne se laissent pas expliquer par une seule cause, mais ce qui les relie pourrait bien relever de la question de l'exercice de l'autorité dans l'Église. En tout cas, les deux défis majeurs pour l'Église et auxquels le synode s'attaque, même si ce n'est pas résumé ainsi, c'est faire en sorte qu'il n'y ait plus d'abus dans l'Église et que celle-ci soit un lieu sûr pour tous, et faire en sorte aussi que le message du Christ soit audible dans la société du XXIe siècle. Donc, ça en arrière-fond. Bon, pour parler maintenant de mon expérience et après vous expliquer ce qui se travaille aujourd'hui dans le synode, voilà quelques mots sur mon parcours. Donc, comme il a été dit, j'étais avocate au barreau de Paris. Je me suis arrêtée parce qu'avec 4 enfants en bas âge, ça devenait impossible. C'est là où j'ai commencé à faire le cathé et je me suis rendu compte que je ne connaissais rien à ma propre foi. Donc, je ne pouvais pas tellement supporter ça. C'est là où j'ai fait des études de théologie, et un de mes anciens curés est alors devenu secrétaire général adjoint à la conférence des évêques, puis après secrétaire général, aujourd'hui il est évêque, et c'est un peu par hasard que je suis comme ça arrivé à la conférence des évêques. Et j'ai aussi fait un passage à Bruxelles, à la COMECE, qui est la commission des épiscopats de la communauté européenne. J'ai eu la chance, moi, de côtoyer des hommes intelligents qui n'avaient pas de problème avec les femmes, et qui avaient une vision très ouverte, très dynamique de l'Église. J'ai jamais souffert de misogynie, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup reçu, j'ai rencontré beaucoup de personnes, dont quelques personnes vraiment hors du commun qui m'ont marqué à vue. Donc, j'ai pas eu de problème relationnel à la conférence d'évêques. Est-ce que j'ai rencontré le cléricalisme? Oui. Est-ce que j'en ai souffert? Non. Et je vous explique pourquoi. Moi, je ne me destinais donc pas du tout à travailler pour l'Église, c'était pas mon milieu professionnel. Comme je m'étais arrêté ma carrière, je me dis, bon, je vais quand même faire quelque chose d'utile pendant ce temps-là. Et donc, faire un travail bénévole sans avoir vraiment de grandes responsabilités, ça me convenait très bien parce que ça me permettait de préserver ma vie de famille pendant ce temps-là et de faire quand même quelque chose d'intéressant et que j'espérais utile. J'espère toujours que ça a été utile. Mais ce monde n'était pas le mien. Je voyais des choses qui je trouvais bizarres, mais je ne m'y arrêtais pas. Un peu comme quand on voyage dans un pays étranger et qu'on se dit « Ah tiens, ils font ça comme ça, c'est bizarre, je ne ferais pas, mais bon ». Je dirais que c'est presque une première indication du cléricalisme. On ne se sent pas chez soi. L'Église, ce n'est pas chez nous, c'est chez eux. Là où les choses... Mais donc, encore une fois, j'avais d'excellents rapports et je fais ce travail avec plaisir et on ne m'entendrait jamais taper sur les évêques en général ou les prêtres en général. Je connais suffisamment qui font un job extraordinaire et pour qui j'ai le plus grand respect et admiration. Là où les choses ont changé, quand en 2009, donc, j'ai été nommée comme première femme directrice du service national famille et société de la conférence des évêques. Tout d'un coup, le poids de l'institution m'est tombé dessus. Une institution qui n'a pas été pensée pour donner des responsabilités aux laïcs, et certainement pas aux femmes. Avant moi, il y avait toujours eu des prêtres à ce poste, et petit à petit, j'ai découvert la séparation fondamentale qui existe dans l'Église entre clercs et laïcs. Mais il m'a fallu du temps pour en prendre la mesure, car les bonnes relations que j'avais au quotidien avec les évêques et les prêtres m'ont longtemps empêché de voir les dysfonctionnements institutionnels. Avec le recul, je retire 4 enseignements de cette expérience. La première, la parole d'une femme ou d'un laïc n'a jamais le même poids, la même autorité que la parole d'un prêtre. Seule la parole d'un prêtre ou d'un évêque engage l'institution. En matière religieuse, la parole des laïcs, homme ou femme, reste une parole privée, qui n'a ni poids, ni autorité, elle ne l'a pas dans l'institution, mais elle n'a pas non plus dans la société. L'institution vous instille le doute et mine votre confiance. Vous avez constamment l'impression que quand vous vous exprimerez en public, vous ne direz jamais les choses telles qu'elles devraient être dites. Personne en particulier, mais tout le fonctionnement de l'institution dans son ensemble concourt à vous faire douter de vous-même, à vous faire croire que vous êtes incapable d'articuler convenablement le point de vue de l'Église sur tel ou tel sujet. Même avec des diplômes universitaires, parce que j'ai une maîtrise en théologie, même avec une solide expérience de vie, parce que quand j'étais nommée, j'avais 52 ans, quand même un bon nombre d'années de mariage, 30 années de mariage, 4 enfants, voilà. Et même donc parce que les évêques eux-mêmes avaient nommé en responsabilité, rien n'y fait, votre parole n'a pas d'autorité. Dans l'Église, l'autorité est attachée à l'ordination. Et nous subissons là, qu'on le veuille ou non, les effets de cette séparation entre clercs et laïcs qui a été introduite par la réforme grégorienne. Et ça remonte à 1000 ans. Les laïcs gardent dans l'Église, même après Vatican II. Vatican II est le premier texte, ce sont les premiers textes qui commencent à changer un peu cela. J'y reviendrai plus tard. Les laïcs gardent une fonction d'élèves et d'apprentis besogneux, obligés d'exprimer leur foi dans une langue et des concepts dont les clercs conservent la maîtrise. Et en disant cela, je cite Gérard de Foix, ancien archevêque de Lille. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Cette incompétence des laïcs pour parler de la foi a été complètement assimilée dans l'inconscient collectif. Parce que ça fait 1000 ans qu'on pense ça, si ce n'est pas plus. En témoigne l'attitude des médias. Un jour, il fallait envoyer quelqu'un dans une émission télé. Normalement, donc, on s'adresse, les médias s'adressent à la CEF, à la conférence des évêques, pour que tel ou tel évêque vienne parler. Généralement, les évêques qui aiment parler dans les médias, d'autres qui n'aiment pas du tout, mais généralement, on en trouve. Là, c'était sur les abus sexuels sur mineurs. Il y avait moins de volontaires déjà pour y aller. Et comme j'ai travaillé ces questions-là, on me dit, bah, Monique, ce serait bien si vous puissiez y aller. OK. Voilà, c'est la télévision qui a refusé. Une femme ne représente pas l'Église. Il faut un col romain, ou un mythe. La mythe peut-être pas la vérité, mais donc, les médias aussi ont complètement intégré qu'il n'y a qu'un prêtre ou un évêque qui a autorité pour parler au nom de l'Église. Donc après, vous dites ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas compétente. Deuxième point, la place des femmes, des laïcs. Alors, la place des femmes dépend du bon vouloir des hommes, et donc la place des laïcs dépend du bon vouloir des clercs. Moi, c'est en tant que femme, puisqu'on a le 8 mars, un petit couplet sur les femmes. Donc, On ne peut exercer des responsabilités dans l'Église pour autant qu'un prêtre ou un évêque veut bien les confier. Hein, vraiment, notre place dépend de leur bon vouloir des hommes. Alors, bien évidemment, il faut un discernement sur les compétences avant, et les aptitudes d'une personne avant de lui confier des responsabilités dans l'Église. Mais il arrive qu'un changement de curé prive brutalement les laïcs de leurs responsabilités sans qu'il y ait eu une véritable évaluation de leur travail. C'est juste le fait du prince. On ira à du pouvoir. Ce n'est pas vraiment un exemple de l'exercice de l'autorité au service des frères et sœurs. De même, à la fin d'un mandat, un prêtre reçoit toujours une nouvelle mission, mais pour les laïcs en mission ecclésiale, tout dépend de la volonté et même parfois de l'imagination des évêques. De mon service, famille et société, dépendaient les aumôneries des prisons et des hôpitaux. J'ai vu l'exemple d'un aumônier général de prison, un homme laïc, au bout de 6 ans, donc il était salarié de la conférence des évêques, et bien au bout de 6 ans, voilà, merci, extraordinaire ce que vous avez fait, au revoir. Rien. Vous êtes laïc, ben, si vous êtes là, c'est formidable. Ben, si vous n'êtes pas là, ben, l'Esprit Saint, voir, pas de problème. Mais de réfléchir, alors, il se trouve que cet homme était enseignant. Donc il a pu retourner, mais enfin, c'est la République qui vaut le secours de l'Église, là, quand même. Donc, voilà. Donc il manque dans l'Église une véritable politique des relations humaines qui suit l'évolution des personnes en responsabilité pastorale. Elle n'existe pas non plus pour les prêtres, hein, qui souffrent souvent aussi de cela. Cette bonne adéquation entre compétences et besoins de l'organisation, qui est aussi une forme d'exercice d'autorité au service de tous. Et il manque aussi toute forme de recours pour un laïc qui, après de longues années au service de l'Église, se trouve évincé pour incompatibilité d'humeur ou de divergence d'opinion avec son curé ou son évêque. L'Église garde un fonctionnement monarchique. Et la différence de traitement là, entre prêtre et laïc dans la relation de travail ne se justifie certainement pas au regard du droit du travail. Elle illustre encore une fois cette séparation bien réelle entre clercs et laïcs qui semblent aller de soi dans l'Église. J'arrive à mon troisième point. Le fait que l'autorité soit uniquement attachée à l'ordination crée un entre-soi. L'altérité, tant vantée par l'Église, est négligée en interne. L'Église défend toujours l'altérité homme-femme comme étant une richesse porteuse de vie. Je suis plutôt d'accord avec ça, hein, je conteste pas du tout. Elle s'est opposée et s'oppose encore à toutes les initiatives qui minimisent l'importance du mariage hétérosexuel. On a encore des exemples récents, là. Elle a accepté les lois concernant le pacte et le mariage entre personnes de même sexe que contraintes et forcées. Cette altérité qui lui semble si vitale pour la société ne se retrouve pourtant pas dans son organisation interne. Et cela m'a particulièrement frappé la première fois où j'ai assisté à l'Assemblée plénière des évêques à Lourdes en 2009. Les directeurs de service viennent au mois de novembre à Lourdes. Et en 2009, j'étais la seule femme, et nous étions 2 laïcs. L'autre laïc était le directeur de l'enseignement catholique, et c'était un homme. Et pour le reste, 120 évêques, tous hommes. Et il y avait les observateurs de la COREF, et dans les observateurs de la COREF, je pense qu'il y avait une religieuse. Alors, les rapports avec les évêques étaient courtois et aimables. Ce sont des garçons très bien élevés, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ce qui m'a surpris, c'est qu'ils ne se rendaient absolument pas compte de l'absence de femmes. Ils trouvent parfaitement normal que les affaires de l'Église soient traitées dans un entre-soi, sans l'apport de laïcs, sans l'apport d'autres femmes, mais aussi sans l'apport des théologiens, hein. Ils n'interviennent pas davantage. Et puis, il y avait, là je vais faire mon petit couplet féministe, chaque jour ce rituel étonnant où ces hommes se revêtaient de leur robe pour traverser le gave sous l'œil admiratif des badauds et aller rendre hommage à la femme, la Vierge Marie dans la grotte, celle qui leur contredit jamais. Comme si l'hommage rendu à la Vierge Marie dispensait les évêques d'une confrontation à la présence réelle des femmes en chair et en os. Ajoutez à cela les célébrations liturgiques lors des assemblées plénières à Lourdes, où 120 évêques se tassent autour de l'autel, laissant les rares laïcs, principalement des femmes, occupés des bancs clairsemés d'une église quasi vide. Des images surréalistes, vraiment. La séparation entre clercs et mon clerc particulièrement visible dans la liturgie, et pourtant, il ne la remarque pas. Et j'arrive à mon quatrième point, une faible culture du dialogue. Ce manque d'altérité est peut-être un des facteurs qui explique la faiblesse de la culture du dialogue à l'intérieur de l'Église. Dans une assemblée de 120 personnes, le dialogue ne s'instaure pas facilement. À l'époque, les échanges correspondaient plutôt à des prises de parole juxtaposées. Alors, semble-t-il qu'ils ont fait beaucoup de progrès depuis. J'y suis plus. Mais en tout cas, à l'époque, ça m'a beaucoup frappé. Ça manquait de débat, de fluidité, la parole avait du mal à circuler. Et en observant cette assemblée, parce que les directeurs de service sont tout en haut, bien séparés des évêques, bien évidemment, ça me devenait clair que ces hommes étaient tous pères, P-A-I-R, tous patrons et tous célibataires, et que cela colorait leur débat. Tous pères, P-A-I-R, veut dire qu'ils s'écoutent poliment, mais il n'y a aucune obligation d'aboutir à un consensus. La collégialité effective est souvent assez faible. Et lorsqu'à la fin de l'assemblée, chaque évêque retourne dans son diocèse, il redevient seul maître à bord. C'est là où ils sont tous patrons. Sauf qu'il n'y a pas de conseil d'administration, ni d'actionnaire auquel ils doivent rendre des comptes. Enfin, comme ils sont aussi tous célibataires, il n'y a pas non plus dans leur vie privée des personnes à qui ils doivent rendre compte. Quand mon mari s'absentait une semaine pour un voyage à l'étranger, je lui demandais quand même si ça avait servi à quelque chose, mais là, non. Lorsqu'il n'y a jamais besoin de rendre compte des décisions ou options prises, les lieux de dialogue font défaut. Et c'est là où l'Église garde ce fonctionnement monarchique. Et l'absence de culture de dialogue dans l'Église, à l'intérieur de l'Église, rend difficile le dialogue avec d'autres autres composantes de la société. C'est bien le problème de l'Église aujourd'hui, et c'est un des constats qui est vraiment massivement commenté dans le cadre du synode. Pour conclure cette première partie, l'autorité est donc attachée à l'ordination. Cela crée une séparation dans le peuple de Dieu. Il y a des expressions latines qui disent ça, en fait c'est la différence entre l'Église qui enseigne, l'Ecclesia Docens, et l'Église qui doit apprendre, l'Ecclesia Dicens. Donc c'est la claire d'un côté et la laïque de l'autre. On reste donc apprenant toute notre vie. C'est aussi ceux qui savent et qui ne savent pas. On réduit du coup la question religieuse de la foi à un savoir. Et ça crée donc une hiérarchie qui a donné à certains clercs un complexe de supériorité, pas à tous, soyons honnêtes, et à certains laïcs un complexe d'infériorité, pas à tous non plus, soyons honnêtes là aussi. Mais nous sommes tous enfants de Dieu, il y a entre nous une égale dignité baptismale. Et comme le dit le pape François dans cette lettre au peuple de Dieu dont je vous parlais tout à l'heure, le cléricalisme tend à diminuer et à sous-évaluer la grâce baptismale que l'Esprit Saint a placée dans le cœur du peuple de Dieu. Il y a donc, avec le cléricalisme, une distorsion, une déviation de l'autorité. Le mot « autorité » vient du verbe « aucer » en latin, qui veut dire « augmenter », « faire grandir ». Exercer une autorité veut donc dire « permettre à une personne de grandir ». Et en Église, l'autorité doit aider les personnes à grandir spirituellement, non pas les diminuer, les humilier, les mettre sous emprise ou en abuser, ni les infantiliser. On a beaucoup, dans l'Église catholique, les laïcs ont beaucoup été infantilisés. Les laïcs aspirent aujourd'hui à un autre modèle de relation au sein de l'Église, des relations plus fraternelles. Alors, qu'est-ce que le synode peut faire pour combattre le cléricalisme et assainir ce rapport à l'autorité et favoriser des relations plus fraternelles? Il ne s'agit pas non plus de supprimer l'autorité. Il ne faut pas non plus rêver d'une Église qui serait complètement horizontale. Il y a toujours des situations où des gens doivent prendre des décisions. Mais entre un système monarchique où une seule personne peut tout décider, il ne faut pas parler de démocratie en Église, ça fait très... C'était comme si c'était un mot, un gros mot. Comme faisait quand même remarquer un cardinal, même nous, on finit par voter à la fin, sauf qu'on prend plus de temps pour faire la discussion avant. Donc voilà. Qu'est-ce qu'alors le synode dit de tout ça? Parce que mes observations personnelles auraient pu demeurer parfaitement anecdotiques si ces mêmes questions ne se trouvent pas actuellement débattues au synode. Je vais reprendre les mêmes quatre points, mais en sens inverse. Donc, le dernier point, c'était la culture du dialogue. Développer une culture de l'écoute, du dialogue, accepter d'apprendre des autres. C'est tout l'enjeu du synode. Et donc, dès 2015, dans ce discours je vous ai cité au début, à l'occasion du 50e anniversaire du synode des évêques, le pape dit ça, hein, une église d'écoute où chacun a à apprendre de l'autre et où tous doivent se mettre à l'écoute de l'Esprit-Saint. Cette écoute, ce dialogue, il en a souligné l'importance dès 2013, dès son élection et son premier voyage au Brésil. Et il les a organisés dans l'église qui n'en a donc pas l'habitude, en introduisant des nouvelles méthodes. Et c'est très intéressant à observer que on peut croire que dans l'église, bon, l'Esprit-Saint, l'Évangile, ça suffit. Non, le pape, qui est un homme pragmatique, a introduit des méthodes précises pour permettre le dialogue. Je vais vous donner quelques exemples. Déjà, au moment du synode sur la famille, en 2014-2015, là aussi, il y avait eu une large consultation des fidèles. Les évêques ont dû travailler sur le matériau qui était remonté de la base. Et c'était un premier changement de taille. Partir de la réalité, telle qu'elle monte du terrain, et non pas des idées, de la doctrine. Car pour le pape, la réalité est plus importante que les idées. Il a expliqué ça dans son premier grand texte, Evangelii Gaudium, 2013. Donc cela a obligé les évêques à écouter les fidèles. Et cela s'est poursuivi avec les synodes suivantes sur les jeunes, sur l'Amazonie, et celle aujourd'hui qui a donné lieu à une consultation mondiale tout à fait exceptionnelle. Hein? Et ça change tout, parce que si, notamment pour ce premier synode sur la famille, si de la famille vous avez une image idéale, très belle, hein? On est tous d'accord que l'image idéale du mariage chrétien, c'est superbe. Tout là, qui sert sur la réalité, la moitié ou trois quarts de la réalité ne rentre pas dans votre case. Si au contraire, vous partez de la base des préoccupations, des difficultés et des aspirations des gens et vous continuez comme ça, là, vous embarquez tout le monde. Dans un premier cas, vous excluez les trois quarts. Dans l'autre cas, vous pouvez espérer emmener tout le monde. C'est ça que le pape François cherche à faire. Donc, partir de la réalité et non pas d'idées abstraites. La deuxième question de méthode, vraiment, qu'il a introduit, c'est qu'il a mis les évêques, toujours pour le synode de la famille, en petits groupes linguistiques, en petits groupes où l'écoute et les dialogues deviennent possibles. On évite alors ce phénomène de prise de position juxtaposée des grandes assemblées et la complication due aux traductions, parce que les traductions on perd toujours. Et cela permet des vrais échanges. Les évêques français se trouvent avec des Belges, des Suisses, des Canadiens, mais aussi des Africains, ou certains autres qui ont vécu en France. Je me rappelle, j'étais encore donc à la conférence en 2014-2015, quand le synode sur la famille a eu lieu, les évêques sont revenus enthousiastes en disant « Ah, mais on n'a jamais vécu une telle expérience d'église. » Du coup, ils découvraient qu'en effet, dans un diocèse africain, il y a d'autres difficultés que dans un diocèse de France. Ils sont donc confrontés à des réalités différentes. Et vraiment, ça leur fait du bien. Dernière nouveauté introduite par le pape déjà au moment du synode de la famille et qui continue chaque fois, c'est qu'il a réussi à libérer la parole des évêques. Et cela, si un évêque ne me l'avait pas expliqué, je n'aurais pas saisi moi-même non plus. Un évêque est garant de la communion. Et c'est quelque chose qui généralement est très important pour eux. Important au point que quand il faut aborder des questions qui fâchent, parfois, on préfère la mettre sous le tapis plutôt que, parce que si on commence à se discuter, comment on va garder la communion? Ce qu'a fait le pape pour le synode, il a dit, c'est moi qui suis garant de la communion. Le synode se déroule sous Pétro et cum Pétro, sous Pierre et avec Pierre. Vous, il disait aux évêques, je vous demande de parler avec franchise. Dites ce que vous avez sur le cœur. Je ne veux pas que vous repartez en n'ayant pas pu dire ce que vous avez à dire. Et moi, je me tais, mais je suis là garant de la communion. Et du coup, il a permis aux évêques de s'exprimer plus librement et d'aborder des questions, en fait, sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord, sans qu'il y avait cette peur de briser la communion. Il a vraiment fait... Les synodes organisés par François, c'est un genre de formation permanente pour évêques. Mais le dialogue, il faut bien savoir, c'est un concept récent dans l'Église. Hein. Il a été introduit, le mot apparaît pour la première fois dans la première encyclique du pape Paul VI en 1964, Ecclesiam Suam. Et un vrai dialogue oblige de reconnaître l'autre comme interlocuteur Et d'accepter aussi une attitude autocritique, d'accepter que l'autre peut aussi avoir des éléments de vérité et puis de chercher ensemble des solutions au service du bien commun. C'est pas facile un vrai dialogue, ni dans l'Église ni dans la société. Mais dans l'Église, justement, les laïcs ne sont pas toujours considérés comme interlocuteurs encore par certains évêques ou certains prêtres. Le chemin synodal allemand a eu le mérite d'organiser un vrai dialogue entre évêques et laïcs. Et ils ont fait ça à l'allemande avec un règlement très précis de quoi on discute et qui participe et comment on vote, etc. Bon, une nouveauté qui a été assez fraîchement accueillie en France et à Rome. Les Allemands sont allés trop vite et trop loin par rapport à Rome, mais n'empêche qu'ils ont fait un boulot formidable. Hein. Pourtant, c'est bien quand même en renforçant le dialogue à l'intérieur de l'Église, y compris entre hommes et femmes, que les catholiques peuvent se mettre au service de la société et du débat démocratique qui aujourd'hui est quand même difficile aussi. Et dans ce dernier synode, toujours au niveau des méthodes, le synode sur la synodalité, le pape a introduit en plus la conversation spirituelle avec ses trois tours. Je ne sais pas si vous connaissez la conversation spirituelle, certains peut-être, pas tous. On fait trois tours. Le premier tour, chacun parle et les autres écoutent. Le deuxième tour, toujours à tour de rôle, chacun dit ce qu'il retient ou ce qu'il a frappé ou ce qu'il a entendu. Et seulement dans un troisième tour, on essaye un peu de voir ce qui émerge, qu'on peut retenir de commun, où il peut y avoir un échange. Ça met tout le monde au même niveau et ça oblige donc à écouter. Et qu'il ait introduit cette nouvelle méthode cette fois-ci, c'était d'autant plus nécessaire parce qu'il a aussi introduit l'altérité. Je remonte à mon troisième point. La session du synode d'octobre 2023 a vu pour la première fois des non-évêques, y compris les femmes, participer pleinement aux travaux et même avec un droit de vote. Du jamais vu à Rome. Du jamais vu. Il faut bien se rendre compte, je sais bien qu'on ne se ressent pas toujours en France encore le changement, mais le fait que des non-évêques ont pu voter dans le cadre de ce synode, y compris donc de laïcs, c'est révolutionnaire. Il y avait 364 participants, 365 avec les papes. Les évêques représentaient un peu plus de 70%. Et il y avait 99 autres religieux, religieuses, laïques, dont 54 femmes. Pour favoriser le climat d'écoute, il y a eu une veillée œcuménique, puis une retraite de 3 jours. Et puis après, tous étaient, vous avez forcément vu les images, peut-être répartis en table ronde, mêlant cardinaux, évêques, religieux, religieuses, laïcs, hommes, femmes. Ça peut paraître évident, mais ça ne l'est pas du tout. J'ai assisté à des réunions à Rome où vous avez au premier rang les cardinaux, puis les archevêques, puis des évêques, des auxiliaires, des prêtres, des religieux, des religieuses. Alors là, quelque part, c'est très, très hiérarchisé. Et là, en étant en table ronde, ben voilà, il y en a qui n'ont pas aimé, hein, mais ils n'avaient pas trop le choix. Et alors, il y avait des facilitateurs pour aider à ce que la conversation spirituelle avec ces trois tours se passe bien et que chacun pouvait s'exprimer. J'ai une amie qui était facilitatrice au synode qui disait que ce n'était pas inutile qu'il y ait des facilitateurs parce que ben, pour certains, ça peut être difficile de dire qu'il faut écouter les autres. Très humain, hein, mais voilà. Est-ce que cela change? Ben, selon un théologien français, François Auguinet, le langage change. La large participation des femmes tout au long du processus synodal, ces femmes qui ont eu à cœur de retraduire les échos du terrain, a permis de sortir d'un langage abstrait, purement théorique, pour parler des questions et pour davantage introduire la réalité de la vie dans les échanges. Bon, ça c'était donc en octobre 2023. C'était certainement un exercice riche pour beaucoup, difficile pour certains, mais voilà, encore une fois, formation permanente des évêques. Reste le problème de savoir comment les décisions pourront être prises par la suite, parce que cette conversation spirituelle, elle est une très très bonne méthode pour que chacun s'écoute et pour faire émerger des idées, mais ce n'est pas une méthode qui permet de trancher. Donc il faut encore voir, ils n'ont pas encore décidé comment ils vont trancher, le synode s'invente au fur et à mesure aussi. Et l'autre question est de savoir à quel moment les théologiens pourront apporter leur réflexion. On leur a demandé de travailler là, entre les deux sessions, Et donc, comment ça pourra se traduire en octobre 2024, on ne le sait pas pour le moment. Mais bon, cette première session était, avec cette phase d'écoute vraiment intense, était certainement nécessaire pour déjà remettre tout le monde au même niveau, pour casser cette idée de hiérarchie, hein, et donc écouter, apprendre les uns des autres. L'enjeu derrière ces deux questions, à la fois le dialogue, chacun au même niveau, l'altérité homme-femme, laïque, claire. Quand l'accent est mis sur le dialogue et apprendre des autres, ça montre que la foi n'est plus considérée comme un savoir que les uns détiennent et qui transmettent à d'autres, mais d'abord comme une expérience, le fruit d'une rencontre. Et à ce moment-là, il n'y a pas que des sachants et des non-sachants. Chacun de nous a une expérience de sa relation avec Dieu. Et chacun peut en témoigner. Mais les catholiques n'ont pas appris à formuler avec leurs propres mots ce que la rencontre avec Dieu fait dans leur vie. Et l'enjeu du synode est là, c'est que la foi n'est pas, je ne dis pas que le savoir théologique, biblique, etc. n'a pas son importance. Il vient après nourrir notre foi et nous aide à réfléchir. Mais la foi n'est pas d'abord une question de savoir théorique. La foi est d'abord une rencontre personnelle avec Dieu. Donc l'autorité ne peut dépendre uniquement d'un savoir théorique. Elle se base aussi sur un savoir expérientiel. Apprendre de l'expérience de Dieu et de la vie des autres, des plus pauvres, qui peuvent faire de superbes témoignages sur ce que Dieu fait dans leur vie, des femmes même, des victimes, le rapport de la SIAZ a vraiment mis ça en valeur, comment on pouvait apprendre du témoignage des victimes. Mais bien évidemment, tout ça vient questionner l'autorité exclusive des clercs. Donc, ça ne plaît pas à tout le monde, même si certains prêtres et certains évêques ont accepté ça, je veux dire, bien avant que le pape lance le synode sur la synodalité, ils ont toujours fait comme ça. Et cette évolution, qui fait donc qu'il n'y a plus cette séparation stricte entre sachant et non-sachant, était en fait déjà contenue dans les grands textes de Vatican II, mais qu'aujourd'hui le pape approfondit autrement, on peut y revenir tout à l'heure. Je remonte encore à mes deux premiers points tout à l'heure, donc il y avait la place des femmes, et puis il y a ce fait que la place des laïcs actuellement dépend du bon vouloir des hommes. Là, ce que demande le synode, là vraiment il y a un changement que le synode cherche à introduire une véritable co-responsabilité différenciée. Hein, à côté de l'insistance sur l'écoute et le dialogue, et le fait d'apprendre des autres, vraiment dans le rapport de synthèse, il y a la volonté de instaurer cette co-responsabilité. Donc on quitte à ce moment-là le système monarchique dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, pas étonnant là non plus que ça ne plaise pas à tout le monde. Je vous cite un instant le rapport de synthèse donc, qui a été fait fin octobre dernier. « Certaines perplexités et oppositions cachent aussi la peur de perdre le pouvoir et les privilèges qui l'accompagnent. » Ça, c'est par exemple la première fois qu'on dit ça dans un rapport romain. Et puis, je cite encore deux autres phrases. « La mise en œuvre de la co-responsabilité est essentielle dans la synodalité et nécessaire à tous les niveaux de l'Église. En tant que membre du peuple fidèle de Dieu, tous les baptisés sont co-responsables de la mission, chacun selon sa vocation, son expérience et sa compétence. Tous contribuent donc à imaginer et à décider les étapes de réforme des communautés chrétiennes et de l'Église dans son ensemble. » C'est écrit dans ce rapport de synthèse. Et ça dit, alors, il faudra certainement du temps pour mettre ça en œuvre, mais voilà, si on est évolué vers l'un, on va vers une autre image d'Église. Parce qu'un des aspects épineux du cléricalisme est justement constitué par le fait que évêques et prêtres sont trop rarement invités à rendre des comptes. Hein, et les propositions de réforme les plus concrètes dans le rapport de synthèse concernent le ministère épiscopal. L'évêque, encore une fois, est dans une situation quasi monarchique dans l'Église, on trouve en effet dans le rapport final l'invitation à ce que les évêques rendent compte de leur ministère, adoptent un style de gouvernement plus collaboratif et ils sont même appelés à être un exemple de synodalité. Et le rapport, encore une fois, là on est avec les mesures envisagées, tout n'a pas encore les mesures décidées. Hein. Donc on envisage aussi des adaptations canoniques pour que la responsabilité épiscopale soit partagée et donne naissance à une véritable co-responsabilité. Le document évoque même l'idée de dessaisissement des évêques de leur pouvoir judiciaire en matière pénale, ce qui représenterait un véritable changement de mentalité. C'est vrai que dans l'Église, même la séparation des pouvoirs, cher à Montesquieu, n'est pas appliquée. Quand il y a un problème, l'Église, l'évêque, il peut être juge et parti. Enfin, en République, assez aberrant. Donc voilà, il y a un certain nombre de pistes qui sont données. Avec, on laisse entendre aussi que pour les conférences épiscopales ou au niveau des continents, il pourrait y avoir un peu plus d'autonomie. À vrai dire, ça existe hein, déjà, et on ne donne pas trop de publicité à ça. Comme à un moment donné, j'ai donc travaillé à Bruxelles, et je connais bien le cardinal de Keyzel, qui est l'archevêque émérite de Bruxelles-Malines. Lui, il y a quelques années, a écrit comme un genre de petite liturgie pour des couples de même sexe. Une prière que ces gens peuvent faire dans l'église, et la prière est accueillie par le prêtre, où il demande la bénédiction de Dieu, et une prière de la communauté qui les entoure pour aussi prier que Dieu accompagne ces gens sur leur chemin. Bon, alors, il a dû aller le défendre à la congrégation pour la doctrine de la foi, il a dû le défendre dans une réunion avec 18 chefs et des castères, je ne sais pas quoi, donc il a dû aller mouiller sa chemise, mais ça a été accepté, et donc en Belgique, on peut le faire. Et ils ont prévu que si ça pose problème à un prêtre de faire ça, parce que bon, ça peut poser des problèmes, qu'il peut à ce moment-là demander à un confrère de accueillir cette prière. Donc il y a des façons aussi de faire évoluer l'Église sans heurts et sans violence, en respectant, je dirais, la liberté de conscience des uns et des autres. Mais voilà, donc il y a des évolutions comme ça sur le terrain qui existent, mais dont on ne parle pas trop parce qu'il y a toujours des gens qui, à ce moment-là, vont protester. Je vous cite encore des petites parties de ce rapport qui me paraissent intéressantes. La transparence et la culture du rendre compte sont particulièrement importantes pour progresser dans la construction d'une église synodale. Nous demandons aux églises locales d'identifier les processus et les structures qui permettent un audit régulier de la manière dont les prêtres et les diacres, avec des rôles de responsabilité, exercent leur ministère. Et après, pour les évêques, il convient de mettre en œuvre des structures et des processus sous des formes juridiques à préciser pour vérifier régulièrement la mission de l'évêque en ce qui concerne le style de son autorité, l'administration économique des biens du diocèse, le fonctionnement des organismes de participation et la protection contre toute forme d'abus. La culture du rendre compte fait partie intégrante d'une église synodale qui promeut la co-responsabilité et peut prévenir l'éventuel abus. Nous demandons de rendre obligatoire le conseil épiscopal et le conseil pastoral diocésain et de rendre plus efficace également au niveau du droit les organismes diocésains de co-responsabilité. Voilà, donc dans ce synode, il y a quand même beaucoup de demandes de changer effectivement le fonctionnement de l'église et notamment l'exercice de la co-responsabilité. On n'y est pas, hein, on n'y est pas du jour au lendemain, il faut voir ce que 2024, ce qu'ils vont décider, mais la volonté y est. Hein. Et il y a également une demande sur les nouveaux ministères. Nous percevons le besoin d'une plus grande créativité dans la mise en place des ministères en fonction des besoins des églises locales, avec l'implication particulière des jeunes. Alors on suggère un ministère de la parole de Dieu, donc prédication pour les laïcs, ministère pour les couples qui préparent au mariage, ministère de l'écoute et de l'accompagnement. On parle plutôt de ministère institué et non pas de ministère ordonné. Il y a là un autre problème et qui prendra certainement plus de temps à être résolu. On peut là aussi y revenir, c'est un problème particulier. Ce qui nous amène du coup vers le rôle des femmes, parce que les femmes auraient droit à des ministères institués, pas à des ministères ordonnés. Mais il faut bien commencer quelque part. Revoir le rôle des femmes. Tout le chapitre 9 du rapport du synode est consacré aux femmes dans la vie et la mission de l'Église. Alors, tous sont convaincus qu'un changement s'impose. Cela a remonté de tous les continents, au-delà des différences de culture, donc pas seulement de l'Occident, Et ce qui est très intéressant de noter, c'est qu'en Occident, les femmes interpellent l'Église en disant, écoutez, il y a un décalage entre l'Église et la société, qui, en soi, est sain. Je veux dire, l'Église n'a pas à s'aligner sur la société. Mais son décalage par rapport à la société doit être fondé sur l'Évangile. Alors, en matière de responsabilité homme-femme, comment l'Évangile peut expliquer le fonctionnement actuel de l'Église? Voilà, question que pose la femme en Occident. Mais dans les autres continents, où les femmes, souvent, leurs droits ne sont pas respectés dans la société, elles interpellent l'Église pour dire « Mais qu'est-ce que vous faites pour que nous soyons mieux respectés dans nos pays ?» Donc, elle est interpellée de tous les côtés, et tout le monde est d'accord. Il faut renforcer à la fois leur présence, leurs droits, etc. Mais là, l'Église semble bien embarrassée pour trouver un moyen pour effectivement faire davantage participer les femmes aux responsabilités. Dans tous les chapitres, il y a des choses, on note des points de convergence, et on note des questions, et on fait des propositions. C'est, je crois, le chapitre où il y a le moins de propositions. Le rapport relève, comme les femmes ont une nature, une vocation et une destinée commune. Très bien. Que Jésus regardait les femmes comme des interlocutrices. On suit son exemple. Comme les femmes ont la même dignité baptismale, reçoivent les mêmes dons de l'esprit, sont appelées à exercer une co-responsabilité sans compétition à tous les niveaux de l'Église. D'accord. Que les femmes souhaitent partager leurs expériences spirituelles et réclament justice dans les pays où elles ne sont pas respectées. Quelles sont la majorité de ceux qui fréquentent les Églises? Peut-être pas mal de le rappeler aussi. Après, je cite le rapport. De nombreuses femmes ont exprimé leur profonde gratitude pour le travail des prêtres et des évêques. Mais on parlait également d'une Église qui blesse. Le cléricalisme, le machisme et l'usage inapproprié de l'autorité continuent de marquer le visage de l'Église et de nuire à la communion. Une profonde conversion spirituelle est nécessaire, base de tout changement structurel. On continue sur les avis. On dit aussi que, bien évidemment, cette attitude affecte la crédibilité de l'annonce de l'Évangile. Et on termine, les églises du monde entier ont formulé un appel explicite à une reconnaissance et une mise en valeur plus grande de la contribution des femmes, ainsi qu'à un accroissement des responsabilités pastorales qui leur sont confiées dans tous les domaines de la vie et de la mission de l'Église. Très bien. Et après, il y a juste deux questions. Comment l'Église peut-elle inclure davantage les femmes dans les rôles et ministères existants afin de mieux exprimer les charismes de chacun et de mieux répondre aux besoins pastoraux? Point d'interrogation. Si de nouveaux ministères sont nécessaires, à quel niveau et de quelle manière? Pas de proposition, il n'y a que des questions. Mais bon, ce qui est nouveau, c'est que ces questions soient abordées, qu'elles soient écrites noir sur blanc sur un rapport qui émane quand même du Vatican. Dans ces deux derniers points que j'ai abordés, donc la place des femmes et la co-responsabilité, c'est vraiment sur ces deux questions-là qu'on aborde la gestion de pouvoir dans l'Église. Les deux premiers, on était plutôt sur la foi, qui n'est plus un savoir, mais dont on prend aussi en considération le savoir expérientiel. Ici, on est vraiment sur qu'est-ce que le pouvoir en Église, et comment il est exercé, et comment peut-on faire en sorte que ce ne soit pas un système monarchique uniquement aux mains des hommes. Je l'ai dit au début, c'est deux défis, hein, lutter contre les abus et faire entendre l'Évangile au XXe siècle. Pour ce qui est de pouvoir et de l'autorité, on n'en parle jamais en Église. C'est vraiment une nouveauté du pape François d'introduire cette notion du pouvoir. Dans l'Église, justement, on a tellement intégré ce que dit Jésus chez saint Matthieu et aussi dans d'autres évangiles sur « il n'y a pas de pouvoir, il n'y a que du service ». Alors du coup, on parle toujours de service. Mais si on ne dit jamais où est le pouvoir, on ne dit pas où est la responsabilité, et donc on ne dit pas non plus où peut être l'abus. Si on reste dans ce genre de flou artistique, oui, tout le monde est au service des uns des autres, oui, mais là, quand on ne désigne pas le pouvoir, c'est pas le problème qu'il y a de pouvoir. Dans toute société humaine, il y a de pouvoir. Mais il faut pouvoir désigner quel est le pouvoir, qui repose, quelle est la responsabilité qu'il a avec, pour pouvoir aussi dénoncer les abus du pouvoir ou les emprises, etc. Ça, c'est une première chose, sortir des ambiguïtés. Autre problème, sortir de l'impensé que l'Église ne peut pas faire de mal parce qu'elle annonce l'Évangile. Ça, c'est beaucoup, je note ça chez beaucoup de catholiques qui n'acceptent pas ce qu'a dit le rapport de la SIAZ, qu'il y a un problème systémique dans l'Église qui est liée à l'exercice du pouvoir, ils estiment que ben, l'Église annonce l'Évangile. Donc, tout va pour le mieux dans le meilleur du monde. Non, on peut annoncer l'Évangile et faire du mal aux autres parce qu'on n'a pas pris soin d'écouter les autres ou parce que, par sa personnalité ou par l'exercice du pouvoir, et même l'annonce de l'Évangile, je dirais, il y a, avec cette idée que l'Église, ce qui se disait avant, était une société parfaite. En fait, l'Église, elle est sainte et pécheresse, elle est sainte réformante, elle va toujours se réformer, et l'Évangile doit toujours venir contester l'institution et l'ordre établi. Et ça, c'est un de mes patrons à la conférence d'évêques qui m'avait dit ça, et je trouve ça très éclairant. Il dit, l'Évangile est un message révolutionnaire. Une institution n'est pas faite pour gérer une révolution. Donc il y a toujours une tension. L'Évangile viendra toujours contester l'ordre établi parce qu'il y aura toujours des pauvres, il y a toujours des injustices. Et l'Évangile doit faire ça. Et en même temps, on a besoin de l'institution pour que cet Évangile se transmette, qu'il soit célébré, etc. Et donc, il y a une tension toujours entre le message de l'Évangile et l'institution qui peut toujours s'alourdir, devenir trop mondaine, etc. Mais donc l'institution doit accepter elle aussi de se laisser interroger par l'Évangile. Elle ne peut pas juste dire que l'Évangile est là pour interroger le monde. Elle-même doit se laisser interroger par. Et ce n'est pas toujours confortable, mais bon, voilà. On sait bien que l'Évangile n'est pas là pour notre confort. Prendre en considération aussi la vulnérabilité des personnes, des clercs, des laïcs. Ça va avec cette idée de la société parfaite et que du moment qu'on annonce l'Évangile, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il y a des faiblesses humaines, il y a une vulnérabilité, on a tous nos vulnérabilités. Trop de discours de l'Église sont partis de cette idée comme si en fait la société est parfaite et que tous les gens étaient, invulnérables quelque part. Elle n'a pas pris en considération la vulnérabilité de ses propres prêtres, elle n'a pas pris en considération la vulnérabilité des personnes. Et puis donc, oui, changer cette culture de gouvernance, accepter de l'audit, de rendre compte, d'avoir des voies de recours. Aujourd'hui, il n'y a aucune barrière. Aucun contre-pouvoir. Tout dépend de la personnalité de l'évêque ou du prêtre. Ce qui fait qu'il faut rendre hommage à tous ces prêtres, à tous ces évêques qui, en absence de tout contre-pouvoir, exercent néanmoins de façon très évangélique la mission qu'il leur a confiée. Mais c'est trop dangereux de laisser tout dépendre de la personnalité de quelqu'un parce que chacun peut avoir ses faiblesses, chacun peut aussi traverser des périodes difficiles dans la vie. Il serait normal qu'il y ait cette co-responsabilité différenciée avec cette demande d'écoute, de dialogue, de lieu de dialogue, d'accueil aussi de lanceurs d'alerte. Il y a un prêtre, Philippe Lefebvre, qui a écrit un petit livre « Comment tuer Jésus » qui a lancé l'alerte assez tôt sur certaines personnes qui avaient commis des abus, des prêtres qui avaient commis, très connus sur la place de Paris, qui avaient commis des abus. Et il en a pris plein la figure plutôt qu'on l'écoute. Donc, les lanceurs d'alerte, ce n'est pas toujours facile non plus. Et puis, donc, dans ce qui peut changer dans l'Église, c'est qu'il y a une vraie collaboration pour l'élaboration de la décision, même si, in fine, il y aura toujours un évêque ou un curé ou quelqu'un en responsabilité qui devrait trancher, parce que, voilà. Donc, on est sur des changements, beaucoup de mentalité, de pratique, mais aussi des structures, et qui vont prendre du temps, mais qui pourrait vraiment aider à lutter contre les abus sexuels, de pouvoir, de conscience, parce qu'ils permettront d'éliminer ces zones grises de pouvoir où les abus ont prospéré, et parce qu'ils changeront les rapports entre clercs et laïcs et feront davantage place à l'égalité baptismale. Mais je vous disais au début, il y a aussi un problème avec l'autorité morale de l'Église. Elle a été minée bien évidemment par les abus, mais la désaffection vient de plus loin. Est-ce que ces changements aideront aussi l'Église à retrouver son autorité morale dans la société et auprès des catholiques? Peut-être que pour cela, elle devrait même aller encore plus loin. J'ai évoqué au début cette réforme grégorienne qui date d'il y a 1000 ans et qui opère cette séparation entre clercs et laïcs. À l'époque, au XIe siècle, elle avait pour but de mettre de l'ordre dans l'Église et surtout de mettre fin aux interventions des rois et empereurs dans les affaires de l'Église. Donc, elle avait certainement ses raisons d'être à l'époque. Mais elle a opéré une double séparation qui se noue autour de la théologie des sacrements. Elle fait une première séparation entre ceux qui acceptent les sacrements. Donc, à l'époque, il n'y avait que les catholiques, il n'y avait pas encore de protestants. Et ceux qui ne peuvent pas les accepter, donc les juifs, les barbares, etc. Donc, qui est dans l'Église et qui est hors de l'Église. Mais à l'intérieur de l'Église, elle fait une deuxième séparation entre ceux qui célèbrent le sacrement et ceux qui le reçoivent. C'est de là où vient cette fameuse séparation entre clercs et laïcs, qui, après, au fil des siècles, a été, je dirais, accentuée. Mais cette dernière séparation est aussi liée, donc entre clercs et laïcs, à la doctrine morale. Ceux qui célèbrent les sacrements vivent le célibat dans la continence, ceux qui reçoivent le sacrement vivent leur sexualité dans le mariage sacramentel. Et si on ne fait pas ça, on exclut des sacrements. Et donc, par les sacrements et la morale sexuelle qui sont liés, l'Église a exercé un contrôle sur la vie des fidèles. Et cette morale sexuelle s'est beaucoup développée hors sol, sans l'écoute des fidèles, sans l'écoute des femmes, qui sont peut-être quand même concernées aussi, sans laisser beaucoup de place à la liberté de conscience et tenir compte de l'autonomie du sujet telle qu'il s'est développée au fil du temps, particulièrement dans la seconde moitié du XXe siècle. Donc ce discours sexuel hors sol n'importe plus du tout l'adhésion de la majorité des catholiques et encore moins dans la société. Il n'est plus en mesure de guider la vie des fidèles et qui n'accepte plus la verticalité de cette autorité vaticane. Alors, finalement, cette égalité baptismale qui figure déjà dans Vatican II devra se traduire dans une vraie fraternité effective. Et voilà, je peux donner des exemples où de temps en temps ça marche. De temps en temps, l'Église arrive justement à... On voit que là où elle se fait entendre, c'est quand elle s'arrive à mettre dans un rapport beaucoup plus fraternel et non pas ce rapport vertical par rapport au monde. On peut prendre l'exemple, par exemple, de Laudato Si. C'est un député européen des Verts, écologie des Verts, là, qui m'a fait remarquer ça, pas catholique. Il me dit, on peut recevoir ce texte parce que le pape se met à hauteur d'homme et il nous dit, nous avons un problème et voilà ce que je peux apporter à partir de ma tradition comme élément de discussion. Il ne dit pas, vous avez un problème et j'ai la solution. C'est la différence d'attitude. Et j'ai une autre petite expérience personnelle qui m'a beaucoup marquée. L'été dernier, j'avais été invitée à animer le chapitre d'Exavier. L'Exavier, c'est une petite congrégation féminine proto-jésuite. Alors déjà, animer un chapitre, c'est une aventure, parce que j'ai jamais vécu 3 semaines avec 30 femmes, parce que je suis mariée. Mais j'ai été très frappée d'abord parce qu'elle assurait une liturgie des heures superbe, une créativité qu'on ne voit pas habituellement dans nos paroisses. Donc je me suis dit, tiens, ça vaudra peut-être la peine de mettre un peu plus de femmes dans la créativité liturgique. Mais au-delà de ça, elle avait bien sûr une messe quotidienne qui était assurée. Ce n'est pas elle qui faisait la messe. La messe était célébrée par leur accompagnateur spirituel, jésuite. Et pendant plusieurs jours, je me suis dit, qu'est-ce qui change? Il est compris, mais il m'a fallu un peu de temps. Cet accompagnateur, ce jésuite, donc ce prêtre, il introduisait bien une altérité, mais cette altérité n'était jamais domination. Il était toujours dans le registre de la fraternité. Il se situait en frère. Et il y avait une vraie altérité, il était le seul homme, avec 30 femmes. Et ce qu'il disait était écouté autrement. Donc il y avait bien altérité, mais il n'y avait pas de domination. Il y avait fraternité. Et là, je pense que bon, si l'Église arrivait à évoluer vers cela, et peut-être que pour cela, elle devrait toujours plus prendre exemple sur le Christ. Mais voilà, je vais m'arrêter là, parce que j'ai déjà été trop longue. Je vous remercie.
Les enjeux du synode et les espoirs qu'il soulève, vous venez de suivre une conférence de Monique Beaujard, théologienne, présidente des Amis de l'hebdomadaire La Vie, conférence enregistrée le 8 mars 2024 en l'église Saint-Paul à Pau, dans le cadre de Foi et Culture.